Déjà, en premier lieu, vous vous rendez compte que pour tout le monde dans les semaines sociales, c'est une expérience nouvelle. Donc, voilà, ce qu'on vous recommande, c'est beaucoup de bienveillance vis-à-vis de la technique. Vous avez entendu hier Eric Salobir nous dire que la technique devait être tenue en bride courte. C'est ce qu'on va essayer de faire
Ah bah
pendant
oui,
l'ensemble de cet
c'est ça,
atelier. Mais évidemment, on débute comme vous dans cette application grandeur nature de ce que la technique a de mieux à nous offrir en ce moment. Donc, ne vous énervez pas et profitez au maximum de l'interaction qui vous est permise avec l'ensemble des
je vais
intervenants
voir.
et avec l'ensemble des questions que nous allons aujourd'hui regarder. Donc, je vais introduire cet atelier en vous expliquant un petit peu pourquoi on a voulu le concevoir comme ça.
Qu'est-ce qu'elle en fonctionne?
Donc, en 2015, avec l'encyclique Laudato Si, le pape François nous a projeté dans l'écologie intégrale. Tout est lié, nous a-t-il dit. Et les atteintes à la Terre et à la planète et leurs conséquences en chaîne touchent prioritairement les plus pauvres et les plus précaires. Par ailleurs, nos manières de produire et de consommer ont également un impact sur notre nature humaine, en particulier sur notre santé et nos relations sociales. Cet atelier écologie ne peut malheureusement pas embrasser l'intégralité de l'écologie intégrale. Donc nous avons décidé de nous concentrer sur la lutte contre le réchauffement climatique. Alors pourquoi? Et parce que nous ne voyons pas vraiment la biodiversité disparaître. La pollution des océans, des sols, de l'air n'est pas toujours visible. En revanche, le réchauffement climatique, qui nous semblait lointain il y a encore peu, prend corps et il nous affecte. Il affecte nos sens et notre vie quotidienne. La montée de température, la multiplication des épisodes de canicule, l'intensité des pics de chaleur, les sécheresses agricoles, tout ça. Nous avons vu que ça s'est produit dans les années qui précèdent. Et même les prévisions les plus sombres des scientifiques du GIEC se réalisent. Il y a des méga-feux en Australie, au Brésil, en Californie, encore il y a quelques mois, des inondations mortelles, des tempêtes. Comme l'indiquait un scientifique, le changement climatique, nous y sommes. Nous nous sentons également interpellés par les jeunes générations. Les marches pour le climat, les grèves lycéennes pour le climat, les mouvements Youth for Climate. Et enfin, il y a eu une première expérience d'assemblée consultative citoyenne qui s'est tenue sur la question du climat. Et nous avons souhaité prolonger les réflexions de cette assemblée pour leur donner corps et pour continuer la réflexion sur ces sujets. Des réflexions, mais aussi des actions. L'objectif de la première partie de cet atelier est de débattre sur quatre propositions d'ordre politique que nous, membres de l'atelier, et nous, Semaine sociale de France, s'engagerons à défendre dans les mois qui viennent. Mais comme simple citoyen, en écrivant à notre député ou en nous manifestant, en prenant la parole publiquement ou en tant qu'association, nous pouvons aussi défendre ces propositions. Et c'est ce que nous vous engageons à faire. Et dans une deuxième partie, nous aborderons des possibilités d'engagement collectif, associatif et d'engagement individuel pour avancer vers une conversion personnelle réelle. Donc, pour chaque partie de l'atelier, vous aurez ensuite un temps de partage en petits groupes de 6 à 8 personnes qui vous permettra de débattre de ces propositions et de les ancrer dans vos engagements et de faire des commentaires sur la manière dont vous pensez qu'elles sont potentiellement mises en œuvre. Donc voilà un petit peu pour le contexte de cet atelier. Alors, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Je vais céder la parole à Jacques-Olivier Garda, qui est un entrepreneur indépendant engagé et qui intervient dans l'enseignement supérieur, qui contribue aussi de temps en temps au Shift Project, qui contribue au campus de la transition et qui va nous présenter notamment les conclusions d'une étude qui s'appelle Prendre sa part, qui a été faite par le cabinet Carbone 4. Alors, Jacques-Olivier, c'est à toi.
Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Pour prolonger ce que vient de nous dire Eric Wendling en introduction, je vais commencer par cette remarque qu'il ne suffit pas de savoir pour agir. Et c'est vrai que c'est une bizarrerie, entre guillemets, si vous me passez l'expression de l'espèce humaine. Il faut l'accepter, ou j'ai envie de dire plus exactement, il faut prendre en compte le fait que nous n'agissons pas forcément en cohérence avec ce que nous savons. Et la question du réchauffement climatique en est un bon exemple, Eric le rappelait tout à l'heure. Il nous est annoncé depuis longtemps par les scientifiques, voire par certains hommes politiques, mais ce sont bien les conséquences concrètes que nous commençons à vivre, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements qui nous poussent à réagir. Mais en fait, c'est un peu normal, parce que pour reprendre l'exemple du changement climatique qui nous réunit ce matin, on parle à la base d'augmentation de température. Et cette augmentation dont il est question, c'est 1,5, 2, 3, 4 degrés, voire peut-être plus. Mais tous les jours, nous, en fait, nous en faisons une expérience particulière, avec des variations de température qui sont bien supérieures à ce que je viens de vous indiquer. Et je vais prendre l'exemple du lieu d'où je vous parle. Donc, j'habite à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Et ce matin, quand je me suis levé, il faisait 7 degrés. Cet après-midi, il devrait faire autour de 14 degrés. Et puis, ça redescendra en fin de journée à 10 degrés. Donc, ça veut dire que, en l'espace de quelques heures, je vais faire une expérience à travers mes sens d'une variation de température de l'ordre de 7 degrés, quand on parle d'un réchauffement de 2 degrés sur un horizon 2100, donc un horizon lointain. C'est bien pour ça que c'est difficile à intégrer dans notre quotidien. Et donc, s'il ne suffit pas de savoir pour passer à l'action, le savoir permet quand même de préparer l'action. Et dans ce sens, les scientifiques du climat nous ont permis d'identifier les causes du réchauffement climatique, à savoir l'émission de gaz à effet de serre liée aux activités humaines, et même plus précisément, une relation directe entre la quantité de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère et la hausse de température qui se traduit par une droite, grosso modo. Donc ça, c'est un document issu du rapport du GIEC. Donc plus on émet de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, et plus la température augmente. Et en même temps, c'est cette connaissance qui a permis en 2015 à plus de 190 pays de signer les accords de Paris. Accords de Paris qui sont à la base de l'engagement qu'a pris la France dans la loi climat 2017 sur la neutralité carbone. Mais parler de neutralité carbone, ça reste encore un discours que l'on a du mal à percevoir, donc il est nécessaire de rentrer de façon un peu plus précise dans qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone et qu'est-ce que c'est que l'empreinte carbone. Alors l'empreinte carbone, c'est tout bonnement la quantité de gaz à effet de serre qu'un Français moyen, entre guillemets, si tant est que l'image d'un Français moyen existe. Et aujourd'hui, cette quantité, elle est à 11 tonnes par personne. Et ce que nous disent les engagements pris par l'accord de Paris pour limiter autant que possible le réchauffement à 2 degrés, c'est qu'à 2050, il faudrait que cette empreinte moyenne passe à 2 tonnes de CO2 équivalent par personne, par Français. Donc, ce qui veut dire concrètement une division par 6 ou alors une réduction de 80% de ce que nous émettons actuellement. Alors, la question qui se pose, c'est qui peut faire quoi? Qui est responsable? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les entreprises ou est-ce que ce sont les citoyens? Et c'est tout l'intérêt de l'analyse qu'a menée le cabinet Carbone 4, qui est un cabinet spécialisé sur les questions de décarbonation, en allant un petit peu plus loin que ce que je viens de vous dire et en donnant une visibilité sur les origines plus précises de notre empreinte. Donc, la question de la mobilité, du logement, de nos biens, de l'alimentation et des services publics. Donc, aujourd'hui, on est l'ordre. J'ai arrondi à 11 tonnes pour simplifier. Dans l'étude, on est à 10 tonnes 8. Et l'horizon à atteindre, c'est bien celui-là. de 2 tonnes de CO2 équivalent. Alors, ils se sont penchés derrière sur, finalement, moi, individu, qu'est-ce que je peux faire à travers des éco-gestes qu'ils ont appelés, entre guillemets, héroïques du quotidien, c'est-à-dire modifier, c'est adopter un régime de type végétarien, s'approvisionner en circuit court, modifier ses habitudes de mobilité, que ce soit à travers le vélo, le covoiturage, l'abandon de l'avion, de passer une logique d'achat autant que possible d'occasion, de démarche de zéro déchet. Et avec l'ensemble de ces démarches, on pourrait atteindre une première baisse de 2,8 tonnes de CO2 équivalent. Donc ça, ce sont des gestes qui ne coûtent rien et au contraire, même ont un ensemble de bienfaits, alors que je n'ai pas le temps de vous détailler dans le créneau qui m'est accordé. Et puis, il y a d'autres gestes qui nécessitent, eux, des investissements qui sont de type rénovation de son logement, investissement dans un chauffage bas carbone, voire dans un véhicule faiblement émissif. Et là, on pourrait encore gagner 2 tonnes de CO2 équivalent par personne. Donc, quand on fait le total de ces éco-gestes héroïques et de ces gestes individuels avec investissement, on arrive potentiellement à une baisse de 4,8 tonnes, ce qui représente à peu près 45% de l'objectif. Maintenant, et je m'approche de la conclusion, ces gestes héroïques, ce serait difficilement, probablement généralisable à l'ensemble de la population. Donc, en prenant une vision plus réaliste, plus concrète de ce qui pourrait être fait au niveau individuel, l'étude conclut que notre engagement individuel, à travers des éco-gestes, à travers des investissements, pourrait contribuer à 25% de l'objectif de réduction de notre empreinte carbone. Ce qui veut dire que 75% concerne ce que l'on a vocation à appeler la transformation systémique, qui concerne la décarbonation de nos industries, de l'agriculture, du transport de marchandises, des services publics, de la chaleur, et ainsi de suite. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que oui, nous pouvons agir, nous pouvons créer les conditions d'une mise en mouvement qui représente certes une partie, un quart, mais qui peut contribuer à entraîner une dynamique de transformation systémique, mais pour lesquelles on a besoin d'un investissement politique et du monde économique pour atteindre cet objectif. Voilà un petit peu ce que je voulais et pouvais vous partager sur cette étude qui met en lumière la part de notre capacité d'engagement et la part individuelle et la part de notre engagement collectif. Eric, je te rends la parole.
Merci beaucoup, Jacques-Olivier. Donc, nous voyons que finalement, notre action individuelle est bénéfique. Il faut encourager des comportements individuels bénéfiques, mais ils ne peuvent pas suffire sans des décisions politiques structurantes. Et alors, quelles sont ces décisions politiques structurantes ? Alors, nous avons fait des choix, forcément, dans les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, pour proposer des mesures qui nous semblent combiner une action individuelle et une action structurelle collective. Nous avons parfois reformulé ou recombiné des propositions de la Commission citoyenne pour leur donner une portée plus systémique, une traduction plus concrète, notamment par rapport aux lois déjà existantes ou en cours de rédaction, et aussi dans un souci d'efficacité et de coût des dispositifs pour une puissance publique qui est à ressources contraintes. Alors, la Commission citoyenne pour le climat a classé ses propositions en 5 grandes thématiques: consommer, produire, se déplacer, se loger et se nourrir. Carbone 4, dans son étude, avait une thématique supplémentaire qui s'appelait accéder aux services publics, aux services notamment de sécurité, de justice, d'éducation, de santé. Donc, pour avoir un panorama complet, finalement, il y aurait besoin de 6 thématiques. Et Carbon 4 a fusionné, finalement, consommer et produire dans une même thématique, qui s'appelait biens et services. Mais on notera que la partie consommer relève plus de l'action individuelle, alors que la partie produire est plus de l'action structurelle qui découle de décisions politiques ou d'engagement des entreprises. Donc, on a noté que les thèmes se déplacer et se loger étaient évalués avec un impact environ de 60% sur l'ensemble, ce qui est absolument colossal. Et simplement, ce sont des thèmes qui sont déjà très largement abordés. Et vous avez vu dans le débat politique actuel que finalement, il y a presque un consensus sur le fait qu'il faille passer à des voitures hybrides ou électriques, qu'il faille faire un effort de rénovation des logements pour diminuer leur empreinte en termes de chauffage. Donc, nous avons choisi de nous concentrer sur les 40% qui restent, qui sont quand même un effort également très conséquent. Et donc, les thèmes des services publics, les thèmes de la consommation et de la production, et les thèmes de la manière dont nous nous nourrissons. Et nous estimons que c'est là que les semaines sociales peuvent apporter un éclairage qui pourra aiguillonner et faire vivre le débat sur ces questions. Et alors, quelque chose de commun à tous ces thèmes, c'est que la première chose avant de pouvoir faire quelque chose, c'est qu'il faut effectivement, comme l'évoquait une des personnes dans les questions, il faut être capable de le mesurer de façon fiable et pouvoir faire confiance à un certain nombre de chiffres. Et donc, la première proposition que nous vous proposerons de débattre dans le débat tout à l'heure, c'est une proposition pour une mesure universelle et exhaustive du contenu carbone. C'est-à-dire que la Commission citoyenne pour le climat propose plusieurs mesures visant à renforcer la connaissance des émissions de gaz à effet de serre, aussi bien au niveau des produits qu'au niveau des entreprises. Et ce qui est indispensable, c'est qu'il y ait une comptabilité carbone qui couvre l'ensemble des activités émettrices, pour savoir effectivement distinguer chacune des activités qui émet du carbone au sens large, c'est-à-dire du carbone et l'ensemble des gaz qui génèrent du réchauffement climatique. Donc, les semaines sociales soutiennent toutes les propositions qui visent à fournir aux citoyens, aux consommateurs, aux décideurs économiques et aux décideurs politiques des moyens de mesure fiables et exhaustifs de l'impact carbone de toute activité et de production. Et en particulier, nous soutenons l'obligation faite aux entreprises de réaliser un bilan carbone annuel de leurs émissions. Et donc, pour que ce bilan offre une mesure exhaustive, il est nécessaire d'appliquer cette obligation à l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire y compris les toutes petites entreprises, et sur l'ensemble du spectre des émissions, c'est-à-dire les émissions de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Ça implique aussi que les produits et les services intermédiaires qui sont importés par les entreprises arrivent avec un bilan carbone fiable et vérifiable en fonction de nos normes européennes pour les produits qui franchissent les frontières. Donc, ça veut dire qu'à terme, il faut pouvoir auditer à l'extérieur de nos frontières la manière dont nos fournisseurs étrangers évaluent le bilan carbone des produits qu'ils nous fournissent. La deuxième obligation que nous soutenons, c'est celle faite aux distributeurs de fournir aux consommateurs une information fiable sur le contenu carbone des produits qu'ils achètent. Et nous pensons que cette obligation devrait s'appliquer dès la publicité, un peu comme vous avez aujourd'hui les niveaux d'émissions sur les véhicules. Quand vous avez une publicité pour un véhicule télévisuel ou sur une affiche, vous avez son niveau d'émission. Nous pensons que cette obligation de niveau d'émission devrait être généralisée à l'ensemble des produits. Et puis, nous pensons que le système d'affichage de l'information doit permettre aux consommateurs d'évaluer de façon rapide, facile, le rapport entre le carbone émis par un produit et l'usage qu'il va en avoir. Par exemple, sous forme de, comme vous avez vos apports journaliers recommandés dans l'alimentation, ben vous auriez votre consommation carbone journalière recommandée et vous pourriez comparer votre produit à cette consommation quotidienne ou annuelle de carbone. Donc, voilà la proposition que nous vous proposons de débattre tout à l'heure. Mais ces propositions de mesures appellent ensuite des propositions pour réguler donc la consommation, pour réguler la production et pour réguler la manière dont nous nous alimentons. En tout cas, pour permettre que ces différents aspects de notre existence tendent vers un bilan carbone bien moins important que celui d'aujourd'hui. Donc, je vais céder la parole à Paul Picaretta, qui va nous parler notamment de l'aspect de la publicité et de son impact sur notre mode de vie et sur la manière dont nous consommons.
Bonjour Eric, bonjour Alexandre et bonjour à tous. Déjà merci de me donner la parole pour cette petite intervention sur la publicité. Alors avec la revue Limite, on a travaillé ce sujet il y a un peu plus d'un an et c'est vrai que c'est un sujet qui nous parle particulièrement. Pourquoi une revue d'écologie s'intéresse à la question de la publicité ? Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que avant de vous parler du coût écologique de la publicité, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais effectivement, le coût écologique de la publicité est monstrueux, je voudrais déjà essayer de comprendre avec vous comment la publicité fait partie probablement des causes de tous les maux de notre temps. C'est-à-dire qu'elle est un peu à l'origine de l'effondrement écologique. Alors pourquoi ? La première chose que je voudrais vous raconter, vous m'entendez ? Petit pouce, ok, super. En 1929, vous avez un gars qui s'appelle Édouard Bernays, que vous connaissez sans doute, qui est le neveu de Freud, donc le grand psychologue Freud. Édouard Bernays s'occupe d'une célèbre manifestation new-yorkaise qui s'appelle la East Parade. Il est derrière cette East Parade. Et qu'est-ce qu'on voit en 1929 dans les rues de New York ? On voit des femmes faire un happening et allumer en même temps une cigarette. Alors là, tout le monde se dit, ouais, c'est fantastique, toutes ces femmes qui allument ces torches de la liberté pour manifester leur droit de fumer en public et leur droit de femme. Donc on prend ça pour une manifestation féministe. Et en fait, derrière, donc, on a ce consultant, donc à l'époque on appelait ça expert en relations publiques, après on a appelé ça publicitaire, et donc Édouard Bernays. En fait, est embauché par l'industrie du tabac pour augmenter tout simplement le marché de la vente du tabac. Et donc, il se sert d'une revendication féministe pour faire passer un message, pour dire, vous voyez, tout le monde a le droit de fumer, les femmes aussi, et pourquoi pas les enfants demain. D'ailleurs, il y a eu une polémique juste après les années 29 là-dessus. Et donc, par une opération marketing, en s'introduisant dans l'imaginaire de la société, il développe le marché du tabac. À partir de 1929, tout le monde peut fumer dans la rue parce que c'est un geste féministe. Du moins, c'est comme ça que c'est présenté. Donc, on est en 1929, donc il y a quasiment 100 ans, et tout de suite, on pourrait dire que c'est la première grande opération marketing de l'histoire. Tout de suite, en fait, on rentre dans ce que c'est que la publicité, c'est-à-dire principalement une science cognitive. On essaie de travailler l'imaginaire des individus, de vous, de moi, pour faire passer certains messages. Donc, je rappelle que c'est vraiment le neveu de Freud. Hein. Donc, c'est des gens quand même qui connaissent un petit peu les mécanismes de la psychologie. Rien n'a changé en 100 ans. On continue de travailler de la même façon. On continue... Les publicitaires, l'industrie publicitaire continue de faire passer des messages de manière plus ou moins discrète. Pour continuer sur la psychologie, comment fonctionne aujourd'hui la publicité ? On est extrêmement stimulé tous les jours. Selon votre classe sociale, selon votre sexe, votre position dans la société, vous allez recevoir plus ou moins d'informations et d'incitations à l'achat. On pourrait dire aujourd'hui une étude, je vais vous donner quelques petites références à noter si vous avez le temps chez vous ensuite d'aller les consulter. Vous avez l'étude d'Arnaud Petre, donc, qui est chercheur en neuromarketing à l'Université catholique de Louvain, qui a travaillé sur les stimuli commerciaux en Occident que l'on peut estimer à 15 000 par jour. Dans les années 2010. Donc, c'est-à-dire qu'entre-temps, ça a augmenté. 15 000 stimuli commerciaux par jour. En dehors de ces stimuli commerciaux, il estime qu'on reçoit entre 1200 et 2200 publicités par jour. C'est-à-dire que ce sont des choses qui passent sans qu'on les voit. Mais ça s'imprime. C'est-à-dire une marque. Quand on parle de stimuli commerciaux, ce n'est pas simplement le mot acheter, c'est le mot c'est bien, c'est mieux. Voilà. Donc, psychologiquement, nous sommes conditionnés, du moins, quand on est incité à un point extrême, on appelle ça un conditionnement. Donc, nous sommes conditionnés à acheter, à acheter et à consommer. Je voudrais vous donner tout de suite un point beaucoup plus théologique. Une enquête d'un théologien dans les années 90 avait montré que la rhétorique utilisée par les publicitaires était comparable à ce que ce théologien appelait la rhétorique des corps glorieux dans l'univers de saint Thomas d'Aquin. Je m'explique tout de suite. En fait, ce théologien disait que les propriétés des choses qu'on nous vendait, donc l'élasticité d'un produit, son caractère lisse, son caractère agile, son caractère éternel, en fait, correspondait aux propriétés des corps glorieux dans la théologie de Thomas d'Aquin. Pour aller très concrètement, quand vous achetez une crème…
Et là, si tu fais sur le truc à droite…
Quand vous achetez…
Attends, excusez-moi, Paul. Paul, est-ce que vous pouvez rallumer votre micro, s'il vous plaît?
Allez.
Super, merci. On vous a perdu pendant 10 secondes.
Pardon. Donc, quand vous consommez un produit, quand on consomme un produit, dans la tête du publicitaire, on le consomme en tant que nous désirons quelque chose de l'ordre des corps glorieux. C'est assez étonnant. Mais pour reprendre un peu cette rhétorique, si vous allez voir saint Thomas d'Aquin, si vous avez du moins le temps et la chance d'aller lire saint Thomas dans le texte, en fait vous vous rendez compte que l'élasticité et la propriété de type corps éternel, corps lisse, souple, etc. se trouve exactement dans la rhétorique qui est utilisée par les publicités. Pour continuer sur quelque chose de l'ordre du psychologique, un rapport anglais de 2011 qui s'appelle « Think of me as evil » expose qu'en fait, il y a deux types de valeurs distribuées dans la société, les valeurs extrinsèques et les valeurs intrinsèques. Les valeurs intrinsèques sont celles qui reposent sur l'émancipation, l'universalisme, la solidarité, alors que les valeurs extrinsèques mettent en avant la consommation ostentatoire, la sécurité et l'individualisme. Évidemment, ce sont ces dernières qui sont véhiculées pour vendre un produit. C'est-à-dire que nous sommes stimulés à consommer de manière individuelle, de manière colérique, de manière morose, tous ces attributs psychologiques qui nous enferme. Donc, face à la multiplication des panneaux publicitaires, des incitations à la consommation, l'intellectuel François Brune, qu'on peut appeler le pape de l'antipub, a écrit une remarquable enquête, étude, toute son œuvre en fait est basée autour de ce qu'il appelle le bonheur conforme. Donc, je vous invite à aller lire François Brune, ça se lit plutôt bien. Son livre référence qui s'appelle le bonheur conforme montre bien que au fond derrière tout ça, derrière la publicité, je mets le coût écologique de côté, derrière la publicité il y a d'abord une incitation à la consommation et une incitation précisément qui nous dit vous n'êtes pas heureux sans bien, nous allons vous rendre heureux. Voilà. pour passer sur un autre plan. Maintenant, vous allez me dire, mais vous faites un tableau horrible de la publicité. Ben, effectivement, de toute façon, il faut être un peu lucide dans l'univers, sur l'univers dans lequel on vit. On a développé énormément de pistes d'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester simplement passif. On ne peut pas, être cynique. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées dans les années 90, des activistes, tout simplement, que la revue Limite est allée voir. Ces activistes, je vais vous en donner trois, et puis je vous donnerai des pistes. Enfin, voilà, vous irez chercher, vous renseigner pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez tout d'abord la grande référence sur la question, c'est le RAP, pour résistance à l'agression publicitaire, qui recense évidemment toutes les agressions publicitaires majeures qu'on a en France. Ils interviennent surtout en France, eux. Son président, Khaled Gaji, est un homme qui voilà, est vraiment tourné vers l'interpellation des politiques. C'est avant tout une association qui mise dans la rue, mais qui essaye d'attraper l'intérêt des députés, des hommes politiques, des personnes influentes. À côté du RAP. Donc le RAP recense vraiment toutes les statistiques, voilà, c'est mis à jour très régulièrement. C'est vraiment la référence sur la lutte contre la publicité. Ça, c'est vraiment le site qu'il faut consulter, RAP, résistance à l'agression publicitaire. Sur l'action et vraiment le terrain, vous avez les déboulonneurs. Les déboulonneurs, alors, sont des gens vraiment géniaux, des jeunes, des moins jeunes, qui vont directement sur le terrain et qui détournent les publicités. Alors là, on est dans le monde physique, donc ça ne se passe pas sur Internet, mais ils vont dans le métro, ils vont dans l'espace public et ils vont tout simplement prendre une clé à laine, démonter un panneau publicitaire et le remplacer par quelque chose de beau à voir. Non pas que la publicité soit laide, parce que parfois elle est belle, mais tout simplement, les déboulonneurs vont le remplacer par quelque chose de gratuit. Je vais vous montrer un petit exemple. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer ce que font les déboulonneurs. Normalement, vous avez accès à… Voilà. Donc, je ne sais pas si vous trouvez ça beau. En tout cas, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça nous fait respirer. Il n'y a rien à vendre. Voilà. Donc là, c'est une action qu'on a couvert… à la dernière manifestation en hiver dernier, tu veux de la pub, prends une fleur. Voilà. voilà. Et vous avez, je vous en montre que deux, mais on pourrait les multiplier. Ce que disent les déboulonneurs, c'est qu'en fait, ils essaient de faire quelque chose de joli, tout simplement, et de gratuit. Alors, ça ne change pas le monde, mais ça, en revanche, ça a le mérite de voilà, pendant un instant, du moins, ça a le mérite de nous plonger dans un univers qui est, oui, qui est l'univers du gratuit. Je pense qu'on peut, pour terminer, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, après les déboulonneurs, je voulais citer l'association Casseurs de Pub, qui est une association, en fait, qui est pareil, qui recense toutes les… alors, attendez, vous m'entendez plus peut-être? Si, c'est bon.
Si, c'est bon, on vous entend bien. Et vous restez toujours en ligne.
Attendez.
Hop, c'est bon, je récupère le…
L'écran, c'est ça?
Oui.
Super. Pour terminer, donc l'association Casseurs de Pub fait un peu ce travail-là à Lyon en recensant toutes les manquements, on va dire, au respect de la décence et de la loi, puisque la loi encadre la publicité. Typiquement, la plupart des panneaux que vous voyez dans les grandes surfaces sont interdits. Normalement, il y a une réglementation sur la taille des panneaux. Donc, j'essaie de contourner énormément. Il me reste une minute, si j'ai bien compté. Je voudrais terminer sur… C'est ça, Eric? Il me reste une minute. Je voudrais terminer sur un point qui est celui de la presse. Évidemment, en tant que journaliste, on est très sensible à limite au modèle économique de la presse. En France, le modèle économique de la presse fonctionne essentiellement grâce à la publicité. Quand vous ouvrez la plupart des quotidiens ou des hebdos, vous voyez que pour deux pages de journalisme, vous avez quatre pages de publicité. Alors évidemment, c'est très problématique puisque la presse est là pour informer, mais quand vous êtes payé par Danone ou LVMH, est-ce que vous avez le droit d'informer sur Danone ou LVMH? Typiquement, Danone, qui est un des spécialistes de ce que je parlais tout à l'heure, de la manipulation psychologique, Danone s'est exporté en Asie, il faut le savoir, grâce à une grande campagne sur le lait qui consistait à dire aux Chinois que boire du lait, ça rendait intelligent. Vous pouvez trouver les publicités, elles existent encore. C'est un scandale sanitaire. Et Danone n'a jamais été inquiété pour ça. Bon. Donc, voilà, on est toujours sur les mécanismes psychologiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour un journaliste d'être financé par des personnes qui, enfin des groupes du moins, qui ont cette responsabilité dans le désastre écologique? Ça, c'est une question que je garde ouverte. Vous pouvez me poser tout un tas de questions et je vais vous envoyer l'adresse de la revue pour les semaines sociales. On met à disposition le numéro qu'on a consacré à la publicité, on met à disposition gratuitement. Il suffit d'envoyer
Paul. Un mail et de le demander. Et c'est un élément dont on reparlera en deuxième partie avec toi, Paul.
Bien sûr.
Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais vous partager la proposition que les semaines sociales portent dans ce domaine de la publicité. Alors, évidemment, on ne va pas vous demander de vous engager à les déboulonner ou casser des publicités. Notre réflexion, elle est plutôt sur une logique de régulation de cette publicité et en particulier de restreindre à de rares exceptions la publicité non sollicitée, c'est-à-dire celle que vous n'avez pas été chercher, vous ne pouvez pas arrêter en coupant le bouton de votre téléviseur, en fermant ou en passant la page de votre journal favori sur laquelle la publicité ne vous plaît pas forcément. Voilà, cette publicité auquel on est exposé dans l'espace public, dans les gares, dans l'ensemble des endroits où on passe sans forcément être en mesure de l'éviter. Donc la proposition est d'ailleurs inspirée de celle qui s'appelle C2.2 de la Commission citoyenne pour le climat. Elle consiste à limiter fortement la publicité placée sur ou visible depuis les voies de circulation publique. Et donc ceci inclut en priorité les panneaux de publicité qui génèrent un mouvement, les vidéos, les images animées, les changements de luminosité qui sont faits pour capter votre attention. Ça inclut la publicité sonore, évidemment à l'exception des annonces qui sont nécessaires à la gestion de la circulation ou de la sécurité publique. Ça inclut les affichages statiques de grande taille, y compris ceux qui sont placés sur des immeubles privés, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies de circulation publique. Alors évidemment, on peut trouver des exceptions, par exemple pour les événements de nature passagère liés à des activités culturelles, sportives. On ne va pas enlever les colonnes Maurice à Paris qui font la publicité pour les spectacles. Évidemment, il ne s'agit pas d'enlever les informations concernant la vie citoyenne et la communautaire locale. On peut évidemment peut-être avoir une exception pour les endroits qui sont des lieux de distribution commerciale très passagers, les salons, les foires, encore que, ça peut se discuter. Et puis, évidemment, les magasins ont besoin qu'on sache où ils sont, donc il ne s'agit pas d'enlever leurs enseignes ou les pré-enseignes qui les indiquent. Mais le but, c'est de vider la voie publique de toutes ces interventions dans votre champ visuel qui captent votre regard et qui vous empêchent de vous concentrer sur ce que vous avez choisi de regarder. Ça inclut aussi les affichages dans les vitrines des magasins qu'on voudrait limiter à uniquement aux éléments qui décrivent les produits en vente ou qui sont dans le magasin et avec des tailles limitées. Et éventuellement, les indications de soldes, là aussi avec des tailles limitées, c'est-à-dire si vous portez votre regard vers le magasin, vous avez l'information, mais vous n'avez pas un regard qui est capté par une pancarte gigantesque écrite en police 37. Et puis, nous souhaitons aussi porter une revendication de limiter fortement la publicité dans les transports en commun public, c'est-à-dire sur et dans les véhicules et dans toutes les gares, avec les mêmes inclusions et exclusions que sur la voie publique. Et pour information, ça vous renforcerait le coût du billet entre 5 et 10% au maximum, et encore pas forcément dans les transports en commun en province. Enfin, nous proposons de réguler la publicité dans les boîtes aux lettres en passant d'un principe d'acceptation tacite, où il faut que vous mettiez un autocollant stop pub pour l'arrêter, à un principe d'opposition par défaut. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre un autocollant « j'accepte la pub » pour avoir les catalogues qui arrivent chez vous. Voilà. Et puis, réguler également la publicité sur un site Internet qui propose un contenu culturel, informationnel. Notamment en proposant systématiquement à l'utilisateur de pouvoir consulter le contenu soit gratuitement avec de la pub, soit en payant à l'acte, à la consommation, sans pub, pour qu'on ait le choix de l'économie de notre attention. Donc voilà, c'est la proposition qui vise non seulement à limiter l'impact de la publicité en termes écologiques, mais aussi à permettre pour les humains une véritable écologie de l'attention, où chacun regagne la maîtrise de son attention. Alors, on va passer maintenant à une troisième proposition, et je vais redonner la parole à Jacques-Olivier Garda pour qu'il puisse nous expliquer notamment, on revient sur un aspect carbone et un aspect production, comment le signal prix est important pour une entreprise sur ce sujet-là. Jacques-Olivier, c'est à toi.
Merci. Alors, je vais prolonger un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'ai mis un titre « Levier pour agir ». Je vais repartir un petit peu du constat que je vous partageais tout à l'heure sur la difficulté que l'on a à agir alors que nous savons. Alors, je vous prenais l'exemple de la difficulté à appréhender un réchauffement climatique de quelques petits degrés à un horizon de temps lointain par rapport à l'expérience sensorielle que l'on vit tous les jours. Mais ça, et pour rester un peu dans le champ de la psychologie, entre guillemets, ce sont des phénomènes qui sont bien connus maintenant, aujourd'hui, qui sont étudiés, et notamment depuis les années 70 par un psychologue, Daniel Kahneman, qui s'est intéressé aux conditions de prise de décision et la mise en avant d'un fonctionnement un peu paradoxal entre ce qu'il appelle deux systèmes, le système 1 et le système 2. Le système 1 plutôt basé sur l'instantanéité, et les émotions, et le système 2 plutôt fondé sur le raisonnement. Et puis ces travaux se poursuivent aussi plus récemment. Un livre a évoqué le bug humain avec le sous-titre « Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ?» En fait, il faut bien avoir en tête que nous sommes des êtres multidimensionnels qui sommes constitués par une histoire, par un environnement extérieur, par des normes sociales, par des habitudes que nous avons acquises et par des aspects qui peuvent être limitants sur notre confiance en soi. Et c'est tout ça qui nous fait avancer, qui nous fait être ce que nous sommes et qui contribue aux décisions que nous prenons. À cela s'ajoute une erreur, ce que j'appellerais une erreur de placement, c'est-à-dire que, un peu comme il y a 500 ans, nous pensions que la Terre était au centre de l'univers, aujourd'hui, nous pensons au centre de tout, au centre de la nature et découplé même de cette nature, alors qu'en fait, notre place, elle ressemble peut-être plutôt à celle-là. Nous sommes dans une chaîne alimentaire et l'origine de cette chaîne est un phénomène biochimique qui s'appelle la photosynthèse et qui transforme l'énergie reçue du soleil en matière, et ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et puis, je disais erreur de placement, mais qui est aussi associée à une méconnaissance des cycles du vivant. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Le cycle de l'eau, lui, il est généralement bien connu, mais les cycles qui font vivre la Terre, notamment le CO2, l'azote, le phosphore, finalement, on ne sait plus vraiment comment fonctionne tout ce qui nous fait vivre. Et c'est ce qui explique aussi que finalement, on dégrade l'ensemble de ces conditions de vie. Et pour résumer un petit peu, j'ai envie de dire, et synthétiser un peu ce déboussolement, entre guillemets, auquel nous sommes confrontés, c'est justement que nous avons choisi une boussole qui n'en est pas une, et qui est ce fameux indicateur PIB, le produit intérieur brut, qui devrait être l'alpha et l'oméga de notre bonheur. Et quand je le présente à mes étudiants, je dis notre bonheur matériel, et je mets des gros guillemets, sachant que c'est un indicateur qui a des gros défauts. Le premier, c'est qu'il ne s'intéresse absolument pas au niveau des ce qu'on appelle les stocks ou le capital naturel, c'est-à-dire il ne s'intéresse pas à savoir si ce qui est prélevé dans la nature, alors que ce soit au niveau des espèces vivantes ou des minerais qui sont extraits, on est sur un rythme qui en permet le renouvellement. Donc ça, c'est quand même un aspect. Pour avoir été responsable de production, si vous ne savez pas si vous avez durablement les matières premières pour fabriquer ce que vous voulez fabriquer, c'est quand même compliqué de se projeter durablement. Un autre aspect aussi qui est intégré, c'est vous imaginez, c'est plus qu'imaginer puisque ça arrive de temps en temps, un tanker qui perce sa coque et qui déverse du pétrole sur les plages, ça nécessite une action. Alors évidemment, il y a toujours des bénévoles et c'est tant mieux qu'ils se mobilisent, mais il y a aussi des entreprises, voire des agents des institutions territoriales qui se mobilisent, mais ça a un coût. Mais les entreprises, elles sont payées, donc elles génèrent du chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires vient alimenter la croissance de ce PIB, alors qu'on est en train de détruire quelque chose, d'altérer là encore une partie de nos conditions de vie. Et puis, comme c'est un outil mathématique, bizarrement, c'est un indicateur qui n'a pas de limite, donc qui peut potentiellement, mathématiquement, croître à l'infini, ce qui n'a pas de sens dans une planète finie, dans un monde qui est fini. Donc, c'est un petit peu comme si nous étions au volant d'une voiture dont le seul indicateur serait un indicateur qui nous donnerait la vitesse, mais sans avoir de limite possible, qui ne nous dirait pas s'il nous reste suffisamment d'essence. Et à la limite, on nous dit, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas de savoir si tu as ce qu'il faut pour continuer d'avancer. Avance, roule, c'est ça qui est important. Alors la bonne nouvelle de tout ça, c'est rééduquer. Justement rééduquer la prise en compte de notre multidimension d'être humain, de notre dimension émotionnelle, de notre capacité de motivation, notre capacité à prendre de nouvelles habitudes, à l'importance de l'influence du groupe social, donc de quelque part le mimétisme social. Et j'ai envie de dire, et le champ d'action est multiple et varié. Évidemment, on va parler de formation, de revoir la formation de l'enseignement supérieur. Mais ça, ce sont des actions qui sont de long terme. Et on a quand même besoin, si on veut être vraiment sérieux, d'agir à court terme. Et pour être sérieux, il va falloir apprendre à compter ce qui compte vraiment. On a tous appris à compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a tous appris à lire. Aujourd'hui, on compte en euros. Mais il faut sûrement aller plus loin, prendre à compter ce qui compte vraiment, c'est-à-dire comment remettre les enjeux de climat au cœur de l'activité. Et vous avez un rapport qui est très intéressant, qui a été remis en février 2019 au gouvernement sur la nécessité de donner de la visibilité aux acteurs économiques sur la prise en compte de ces enjeux. Et dans l'introduction, il est écrit, et je vous le mentionne et je vous le lis, donner une valeur monétaire à l'action pour le climat, c'est reconnaître la valeur de l'action par rapport à la non-action, c'est signaler que les activités humaines doivent intégrer, internaliser les bénéfices collectifs que procure la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est se donner une référence pour sélectionner et hiérarchiser les actions utiles à la collectivité. Et dans ce sens, on trouve dans le rapport une préconisation de faire évoluer la valeur de la tonne carbone sur un horizon de temps à 2050. Alors tout ça, c'est important parce que ça vient toucher au cœur de l'activité économique et, des entreprises, mais il faut quand même aussi prendre un peu de temps pour réfléchir et anticiper les impacts. Et pour ça, je vous propose un extrait d'un document officiel qui date de septembre 2020, qui est un rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État et qui présente un certain nombre d'éléments et notamment le graphique, les deux, trois graphiques que je vais vous présenter en conclusion. Il présente, donc vous voyez sur l'axe horizontal du graphique, ce sont la population qui est découpée en cinq tranches. Donc à gauche, ce sont les personnes aux revenus les plus modestes et à droite, ce sont les personnes aux revenus les plus élevés, ce qu'on appelle les plus riches. Et sur ce graphique que je vais vous montrer, vous allez voir le montant payé en euros en termes de, entre guillemets, de fiscalité, donc en termes de taxes, l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler la TVA énergétique. Et ce que l'on voit, on se dit, ah ben, très bien, à gauche, donc, la population aux revenus les plus modestes, donc elle paye en moyenne 700 euros par ménage, et puis à droite, les plus riches, ben, très bien, ils payent plus. Mais ça, c'est en valeur absolue, et quand on regarde en valeur relative, en pourcentage du revenu total, on s'aperçoit que finalement, les plus modestes payent, alors ça peut sembler peu, 4,5% en taxes. Hein, je ne parle pas de la facture totale, uniquement de la partie taxe, alors que la partie de la population la plus aisée financièrement, ça ne représente qu'un pour cent. Et si à ça vous rajoutez une dimension territoriale, donc vous reprenez et vous découpez cet effort de fiscalité en fonction de votre zone d'habitat, vous vous apercevez que ce sont les communes rurales, les habitants des communes rurales, pour qui cet effort en termes de pourcentage de revenus est le plus important. Et là encore, j'ai envie de dire, si on fait un parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes, ces quelques graphiques l'expliquent assez bien. Donc, prendre des mesures techniques qui remettent au cœur de l'activité la prise en compte de l'impératif de l'action, évidemment, mais pas uniquement qu'une mesure technique, ça nécessite d'avoir une dimension et un accompagnement sur les enjeux de justice sociale. Eric, je te redonne la parole.
Merci beaucoup, Jacques-Olivier. Ben, c'est parfait. Donc, ça me permet de vous décrire la proposition des semaines sociales sur laquelle nous vous proposons de débattre à l'issue de cette présentation. Donc, il s'agit effectivement, en tenant compte de ce que vient de nous dire Jacques-Olivier, de fiscaliser les émissions de gaz à effet de serre pour décarboner la chaîne de valeur des produits et des services, mais pas n'importe comment. Donc déjà, pour vous dire que cette proposition, elle est inspirée aussi par la proposition qui s'appelait PT 9.1 de la Commission citoyenne pour le climat. Et donc la partie importante, c'est que ce que nous voulons mettre en place, c'est une taxation universelle des émissions de gaz à effet de serre qui est appliquée sur l'ensemble des produits et activités de services consommés dans l'Union européenne, parce que c'est la bonne taille d'unité pour mettre en place ce genre de mesures. Consommer, ça veut dire effectivement qu'il faut faire attention aussi à ce que cette taxation s'applique aux produits qui rentrent, puisque une bonne partie de notre empreinte carbone est liée aux produits que nous consommons et qui sont pour une partie produites à l'étranger. Donc il s'agit en fait d'introduire une fiscalisation, une TVA carbone du bilan de gaz à effet de serre détaillé de tous les produits et services produits dans l'Union européenne par des entreprises de l'Union européenne. Donc ça sera possible notamment à partir de la mesure qu'on a mis en place suite à la proposition 1, et aussi une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne pour appliquer une fiscalité similaire aux émissions de gaz à effet de serre des produits qui rentrent dans l'Union européenne ou qui sont partie prenante des produits qui sont produits par les entreprises européennes. Mais cette fiscalité, pour être juste socialement, elle ne peut pas être uniquement punitive et sans compensation. Donc nous proposons de l'utiliser pour baisser d'autres impôts sur les foyers pauvres et modestes de manière et ruraux, donc de manière à compenser l'impact proportionnellement plus important que cette taxation ferait peser sur leur budget. Nous proposons aussi que cette taxation elle vienne soutenir la transition, donc l'impôt qui est prélevé vienne soutenir la transition des personnes les moins aisées vers une consommation décarbonée, donc notamment en subventionnant plus fortement la rénovation des logements, en baissant éventuellement la TVA des produits en circuit court ou ceux issus d'une agriculture écologique, en aidant plus fortement à l'achat des véhicules propres, en offrant un soutien aux filières de recyclage, de réutilisation, de réparation des objets. Et puis, cette fiscalité, elle doit permettre de financer les investissements dans la décarbonation du système productif. Donc, ça peut vouloir dire aider des entreprises qui font des gros investissements à compenser une partie de cela par une aide fiscale. Ça peut vouloir dire aider les entreprises qui ont un problématique, par exemple, comme le transport aérien ou maritime, d'être dépendantes d'énergie stockable liquide, à trouver des solutions techniques pour faire leur produit autrement. Ça peut également être un impôt qui sert à soutenir la reconversion professionnelle des travailleurs des filières économiques qui sont devenues non viables ou plus réduites dans une économie décarbonée. Et enfin, cette collecte d'impôts, elle doit permettre de financer la transformation des services publics vers des modèles moins énergivores, et elle doit permettre d'apurer la dette écologique, c'est-à-dire de remettre en état éventuellement des milieux naturels dégradés par des activités polluantes, voire de financer des puits de carbone naturels ou technologiques quand c'est possible, mais surtout naturels via des plantations. Donc, c'est un petit peu une proposition qui est assez différente du marché du carbone qui existe aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, où finalement il y a un prix, mais il n'y a pas de récolte pour l'État qui permettrait de financer des compensations. Donc, on propose de remettre ça sous forme d'une fiscalité. Et également, cette fiscalité, elle donne une perspective aux entreprises, comme l'a montré Jacques-Olivier, qui permet aux entreprises de savoir que dans 10 ans, le prix du carbone aura décuplé, dans 20 ans, il aura été multiplié par 20. Et donc de prévoir leurs investissements sur le long terme et de prouver à leurs actionnaires que ces investissements ont une rentabilité. Donc c'est aussi un élément important de contexte pour l'ensemble du monde économique. Alors, le monde économique, c'est aussi le monde de l'alimentation. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Cédric Le Tourneur, qui est secrétaire national au MRJC, qui va nous expliquer notamment comment la transition écologique est vécue par le monde agricole et quels sont les freins et les défis que ce monde agricole a pour réaliser cette transition écologique. Cédric, c'est à toi.
Oui, eh bien, bonjour, merci de m'avoir invité à participer à cette matinée. Du coup, je suis Cédric Le Tourneur du MRJC. On est une association d'éducation populaire en milieu rural. Donc, c'est le mouvement rural de jeunesse chrétienne. On est les héritiers de la JAC, Jeunesse Agricole Catholique. Donc, on est une association qui travaille historiquement sur les enjeux agricoles d'un point de vue comment est-ce qu'on peut, en tant que jeune, s'approprier ces enjeux-là. Comment est-ce qu'on peut devenir soi-même agriculteur. Comment on peut réfléchir le lien entre agriculture et territoire, agriculture et enjeux de relations vie professionnelle, vie personnelle. Et on travaille sur ces questions-là, notamment au sein de trois collectifs, au sein du collectif IMPACT, Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. Donc, c'est un réseau d'agriculture alternative qui contient notamment Terre de Liens, les CIVAM, le réseau des AMAP. Et aussi, on fait partie du collectif pour une autre PAC. Donc, voilà, la politique agricole commune qui est en pleine réforme, dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard. Et là, ce que je vais vous dire s'appuie aussi sur l'expertise qui a lieu en ce moment au sein du Conseil économique, social et environnemental dont on fait partie et qui est en train de travailler un avis sur l'alimentation durable pour les territoires. Et donc, comme ça a été dit, les enjeux de l'alimentation, c'est des enjeux qui sont éminemment importants pour des questions climatiques. Voilà, une grande partie des émissions de gaz à effet de serre sont liées au système d'alimentation et d'agriculture, mais pas que. Si on regarde par exemple la définition de la FAO, quand on veut parler d'alimentation aussi, il faut voir d'autres facteurs à prendre en compte. La FAO définit une alimentation durable comme une alimentation viable sur le plan économique et social, qui préserve l'environnement, la santé et la diversité culturelle. Donc, il y a bien une grande diversité d'enjeux à prendre en compte, qui n'est pas uniquement un enjeu climatique. Et donc, on voit que on pourrait prendre l'alimentation donc comme en premier lieu une question de comment faire en sorte pour que les personnes puissent changer dans leur quotidien leurs habitudes alimentaires. Donc, ce serait voir la première phase de la pièce, qui est la phase de quelle est la demande alimentaire finalement. Donc, il y a beaucoup de leviers sur lesquels on pourrait agir pour faire en sorte de changer les habitudes alimentaires. Et il y a un des leviers qui est beaucoup mis en avant, c'est la question de passer par la commande publique pour travailler sur les changements de ressources, de sourcing qui sont faits pour les restaurations collectives. En effet, quand on est jeune comme moi ou même plus vieux, on passe beaucoup de temps dans ces cantines scolaires et dans ces cantines collectives. Et c'est un endroit où on apprend à manger, c'est un endroit où on comprend ce que c'est que l'alimentation et la sociabilisation autour de l'alimentation. Et puis simplement, c'est dans la restauration collective publique, par exemple, liée à l'éducation nationale, c'est une politique publique sur laquelle on peut avoir beaucoup de poids. Et donc, le fait de demander à ce que la commande publique soit orientée vers une alimentation en produits locaux et ou en produits bio permettrait d'avoir un impact. Il y a aussi la restauration collective, mais privée. Donc la petite restauration et donc là il y a un enjeu à ce qu'on puisse donner des éléments pour que les consommateurs puissent en fait savoir où est-ce qu'ils vont manger quand ils vont dans un restaurant. Et donc par exemple l'avis du Conseil économique, social et environnemental qui est en train de se construire préconise la création de labels pour que les consommateurs puissent voir en amont, quand ils vont dans un restaurant, puissent savoir si il y a un tant de pourcentage de produits locaux ou bio dans la restauration dans laquelle ils vont aller. Donc ça, c'est une première étape, réfléchir à la question de la demande. Une deuxième étape, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir aussi à la question de l'offre agricole. Donc c'est la deuxième face de la pièce. Et donc là-dessus, la question de l'offre agricole, elle est régie par une très grande diversité de politiques publiques. Donc il y a une politique publique qui est très connue, c'est la politique agricole commune, qui est financée massivement par les impôts de tout un chacun. Donc, on a l'habitude de dire que finalement, quand on paye une alimentation, quand on achète un produit, en fait, on l'a déjà en partie acheté via nos impôts qui ont financé la production de ce produit, qui ont financé le producteur directement. Du coup, il y a un gros enjeu dans la question de l'organisation de l'offre. C'est cette politique agricole commune qui représente le premier budget au niveau européen, qui est en cours de renégociation aujourd'hui. Et qui a priori dans ce qui est déjà travaillé et validé au niveau européen manque d'ambition pour vraiment permettre de d'impulser un virage dans la transition des systèmes agricoles. Pour autant, tout n'est pas perdu parce que une grande partie de ces aides européennes vont en fait être déclinées au niveau régional et les politiques d'accompagnement à l'installation, par exemple, ou les politiques d'accompagnement sur les filières vont être en partie régies par les régions. Donc là, gros enjeu sur les régionales qui arrivent pour faire en sorte que nos nouveaux élus régionaux puissent activer un levier plus vert dans la transition, dans la transition du secteur agricole. Voilà, il y a beaucoup d'aides publiques différentes. L'installation agricole, nous, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup au MRJC, parce qu'on est un mouvement de jeunes qui travaille principalement sur ces questions-là. Et il se trouve que aujourd'hui, ayant en tête qu'on a à peu près, on a à peu près 500 000 exploitations en France, et on en a perdu 50 000 dans les 10 dernières années. En fait, les éleveurs et éleveuses et paysans, paysannes aujourd'hui en France sont plutôt plutôt qui ont mis en place tout un tas de pratiques qui ont été recommandées par des politiques publiques dans les années 60, 70, 80, qui sont plutôt qui ont plutôt été disons qu'on est allé très loin dans une industrialisation de l'agriculture, une rationalisation des filières, une mondialisation des filières. Et donc, les exploitations qui existent aujourd'hui, qui vont bientôt être proposées aux nouveaux arrivants dans le métier, sont en fait des exploitations qui correspondent à un système, à ce système-là des années 70, 80, 90, mais qui ne correspondent plus forcément aux ambitions qu'on aurait aujourd'hui pour faire la transition des systèmes. Donc, il y a un enjeu à ce que dans les années qui arrivent, les nouveaux agriculteurs qui vont reprendre ces fermes, déjà soient nombreux, qu'il y ait massivement une réaugmentation du nombre de paysans pour pouvoir avoir un maillage fin du territoire dans la production, pour pouvoir avoir une production qui soit à taille humaine, une production qui puisse être sur des filières plus courtes. On a besoin de petits paysans pour répondre à un enjeu de filières plus courtes. Et donc, au moment de cette transition entre les jeunes et leurs aînés, il y a un enjeu à ce qu'on accompagne massivement à ce que ce soit un moment de transition pour les systèmes alimentaires. Voilà. Et donc, pour finir, en fait, ces enjeux-là d'alimentation et d'agriculture, qui sont donc l'offre et la demande de ce secteur-là, il y a un gros enjeu au niveau local pour pouvoir travailler ça. Aujourd'hui, le rôle des communes, il est assez flou, finalement, dans les politiques alimentaires, dans les politiques agricoles. Et donc, il y a un enjeu à clarifier le rôle des communes pour que ce soit à une échelle de territoire qu'on puisse réfléchir démocratiquement de quelle alimentation on pourrait avoir besoin et de quelle agriculture on devrait avoir besoin en conséquence. Donc là, je peux vous renvoyer par exemple vers l'outil Parcelle, qui est un outil qui a été mis en place par la Fondation Terre de Liens, pour réfléchir à partir d'un territoire, en fonction des terres qui sont disponibles, des types d'agriculture qui sont là, quelle alimentation on pourrait avoir qui serait le plus autonome possible et quels changements il faudrait mettre en place sur le territoire en termes agricoles pour que ça puisse correspondre aux besoins alimentaires du territoire. Voilà, c'est rapidement les premiers grands enjeux et donc je vais laisser Eric préciser les propos pour les semaines sociales.
Merci beaucoup Cédric pour cette présentation. Donc je vais vous commenter donc la quatrième proposition des semaines sociales sur laquelle juste après vous allez pouvoir débattre en petits groupes comme les trois précédentes. Donc la proposition est inspiré des propositions de la Commission citoyenne pour le climat. Et il s'agit d'utiliser la commande publique pour engager l'agriculture vers une production saine et durable, tout en permettant aux ménages modestes d'avoir accès à cette alimentation et en accompagnant les agriculteurs dans la transition écologique. Donc il s'agit en fait d'engager l'ensemble des cantines publiques, c'est-à-dire non seulement les cantines des écoles, mais les restaurants d'entreprise, des administrations publiques, des hôpitaux, des armées, des établissements publics, des établissements sous tutelle, dans la réalisation d'une proportion très majoritaire, largement au-delà de ce que prévoit aujourd'hui la loi Egalim, de leurs achats alimentaires au sein de productions agricoles issues de circuits courts, idéalement même locaux si c'est possible, et à faible coût environnemental, en agriculture raisonnée au minimum, voire en bio si c'est disponible aussi dans l'alimentation locale. La massification de ces achats publics doit permettre d'agrandir significativement le marché du local et bio, et donc du coup de faire cet effet demande qui va permettre à des agriculteurs de transitionner vers ce modèle en sachant qu'ils auront derrière un débouché quasiment garanti via la commande publique. Ensuite, aux semaines sociales, nous sommes très attentifs à ce que cette transition ne soit pas, ne se fasse pas au détriment des populations les plus modestes. Et donc, nous proposons de doter notamment les réseaux d'épiceries solidaires et les associations d'aide alimentaire d'un droit de tirage sur les volumes d'achat de l'administration en produits alimentaires durables, locaux et bio. C'est-à-dire, l'ambition de ce droit de tirage, c'est de permettre à ces associations d'aide alimentaire de s'approvisionner à faible prix, correspondant aux prix de gros qui auront été négociés avec des agriculteurs, sur des achats en plus où ils éviteront les frais d'intermédiation et où finalement l'acheteur sera un acheteur public qui fera donc le travail pour eux, en produits bio et locaux, et de mettre ces produits à disposition, alors à un faible prix dans les épiceries locales, voire même gratuitement dans les distributions alimentaires, des populations les plus modestes. L'idée étant que on ne veut pas que les populations les plus modestes soient les dernières à manger de la nourriture industrielle de mauvaise qualité, mais que cette éducation à la bonne nourriture et cette capacité qui reconnaît la dignité des plus pauvres via leur alimentation à manger quelque chose de bon et qui fait vivre le territoire localement, soit aussi à disposition de ceux qui ont le plus de difficultés à boucler leur budget alimentaire. Et enfin, pour que la partie offre soit aussi satisfaite, il faut mettre en place, comme le signalait Cédric, un système ambitieux d'aide publique à la conversion écologique des exploitations agricoles, donc, qui soit adossé à cette garantie de débouchés liés à la commande publique. Donc, ces aides doivent notamment permettre aux jeunes agriculteurs de réaliser la transition écologique des exploitations traditionnelles qu'ils vont reprendre. Et je crois que Cédric n'a pas cité le chiffre, mais dans les 10 années qui viennent, la moitié des exploitations vont changer de main parce que l'âge moyen des agriculteurs tourne autour de 50 ans. Donc, c'est un changement massif et une opportunité massive de faire une transition. Mais aujourd'hui, effectivement, ces jeunes agriculteurs n'ont pas forcément les moyens d'investir dans cette transition, n'ont pas forcément non plus les propositions de fermes qui conviendraient pour cette transition. Et donc, il faut les accompagner pour qu'ils permettent de restructurer finalement le domaine agricole pour répondre à une alimentation plus locale et plus biologique, plus écologique sur les domaines qu'ils vont reprendre. Donc, c'est les 3 volets de la proposition que vous allez retrouver pour pouvoir en débattre maintenant. Je vais commencer par vous exposer la proposition, qu'on va procéder un peu différemment de la dernière fois. Peut-être que tu veux rappeler avant quelques consignes techniques.
Ouais, je reviens juste. Alors bon, je rappelle les mêmes consignes donc, que tout à l'heure. Merci de bien recouper votre micro et votre caméra en bas à gauche pendant les interventions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Alors, j'ai mis un petit mot pendant la pause au niveau de la fin, la fin des ateliers, des débats. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, le délai des 60 secondes est un peu brutal. On ne peut pas le modifier. Donc, en plus de ça, je vous enverrai un message. Je vous enverrai un message 5 minutes avant la fin des débats. On va pouvoir effectivement continuer. Et avec, donc, là, c'est toi qui présente
aussi. Oui, alors, donc, je vais vous présenter, si je la retrouve. Voilà, elle est là. Le premier jeu de proposition. Donc on a fait 3 jeux de proposition. Le premier, ce sont des actions de formation et de conversion. Alors, parmi ces actions, on en a listé pas mal pour que vous ayez des possibilités concrètes de vous engager. Il y a rejoindre un groupe Laudato Si. Donc ça, ce sont des actions de formation collective à la transition écologique et à sa mise en œuvre. Et Marie-Hélène Lafage, qui va intervenir, va vous en parler. Il y a rejoindre le mouvement Église verte. Il y a rejoindre un mouvement comme Chrétiens unis pour la terre. Et puis, il y a rejoindre une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ou en créer une si vous n'en avez pas à côté de chez vous. Et en parallèle de ça, il y a des actions de conversion qui sont, on va dire, personnelles. Vous avez un système de formation à ces sujets qui s'appelle la fresque sur le climat. Je pense que Marie-Hélène vous en parlera aussi un petit peu. Vous avez un certain nombre de guides de conversion que vous retrouverez dans le Framapad tout à l'heure, mais dont un écrit par notre intervenante, qui s'appelle Laudato Si en acte, petit guide de conversion écologique, que vous pouvez lire. Donc, c'est une bonne lecture pour les vacances de Noël. Vous pouvez faire la conversion écologique de votre épargne. Vous avez un certain nombre de systèmes, notamment une banque durable qui s'appelle Helios, qui vous permet de choisir où vous placez votre argent et notamment de le placer sur des services et des produits le moins carbonés possible ou le plus durable possible. Et puis, vous pouvez vous mettre dans une démarche qui s'appelle une démarche zéro déchet. Donc, vous avez par exemple un site comme famillezerodéchet.com qui vous propose de réduire fortement votre empreinte en termes de déchets. Donc, voilà un ensemble d'actions de formation et de conversion. Et je vais céder la parole à Marie-Hélène Lafage, donc, qui est consultante en politique locale et en transition écologique, pour nous expliquer pourquoi cette action collective de formation dans un groupe et puis cette conversion personnelle sont liées, puisque, comme nous le dit Laudate aussi, tout est lié. Marie-Hélène.
Oui, mais viens.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, effectivement, vous parlez un petit peu des groupes de conversion écologique. Pour vous expliquer un petit peu d'où je parle, moi, je suis membre d'une association qui s'appelle les Altercato à Lyon, qui a lancé un café associatif, notamment le Simone. Et en fait, dans le cadre de ce café, moi, quand j'ai lu Laudate aussi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'était l'appel du pape François à la conversion. Il disait la conversion écologique est aussi communautaire. Et en fait, ça m'a fait réfléchir ce qu'il disait, parce que ce qu'il explique dans Laudate aussi, c'est... il explique l'importance des gestes individuels. Il dit notamment pour la cohérence, pour nous faire rejoindre une forme de dignité. Enfin, il y a des paroles très belles. Et en même temps, il en pointe les limites en disant... seulement des gestes individuels, c'est évident qu'on ne pourra pas engager de changement de société avec. Cette citation dans Laudate aussi, où il dit « on répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme des biens individuels », la conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. C'est ce qui, moi, m'a rejoint et m'a donné envie de créer des groupes. Donc à Lyon, en fait, au café Le Simone, on a créé un groupe où on se retrouvait pour lire Laudate aussi et puis avoir un parcours sur l'année avec des grands thèmes. Et sur chaque grand thème, on essayait de voir ce que l'encyclique pouvait nous apporter, donc des thèmes très concrets comme se nourrir, se déplacer, etc. Et puis sur chaque thème, une fois qu'on avait essayé de tirer un peu le sens de l'encyclique, on essayait d'avoir des engagements individuels et collectifs. Et justement, des engagements collectifs pour pouvoir observer des changements sociaux, essayer à notre échelle d'être moteur de changements sociaux. Donc, ça nous a amené notamment sur se nourrir à créer une AMAP. On voit qu'on réussit vraiment quand on a ce type d'action. Donc, pour expliquer un peu, une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est un système qui met en lien un producteur avec ce qu'on appelle des consommateurs, c'est-à-dire... un certain nombre de personnes qui viennent chercher des paniers de fruits et légumes, mais ça peut être aussi plein de choses. Et donc, le système des AMAP existe depuis longtemps, mais aujourd'hui, il me semble particulièrement intéressant parce que, pour l'avoir vécu et mis en place dans notre café associatif, ça rejoint des dimensions à la fois écologiques et sociales. C'est-à-dire d'avoir un producteur local en bio qui livre des paniers tous les mardis à une cinquantaine de ménages ou personnes. C'est déjà super, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui cherchent une AMAP à Lyon, qui viennent dans notre café en fait pour accéder à ces paniers. Et puis, ça permet aux producteurs de vivre dignement de son travail. Et les paniers qui ne sont pas récupérés, on les redonne à des associations locales qui aident des personnes en difficulté, et en particulier en ce moment. Donc, on voit qu'en lançant une action comme ça, en fait, on rejoint vraiment le tout est lié. Et en faisant une action collective, en fait, on réussit à avoir aussi cette dimension d'inclusion. Et je pense que dans la question qui nous est souvent posée, oui, d'accord, l'écologie, d'accord, l'environnement, mais comment est-ce qu'on fait de l'action sociale ? Et bien, en fait, sans faire d'action collective, je pense que c'est difficile de faire une action sociale et de pouvoir avoir des structures qui permettent cette dimension inclusive. Donc voilà, c'est un peu ce que pour illustrer avec un exemple. Après, les apports d'un groupe de conversion écologique, ils sont multiples parce que déjà, il y a la notion de conversion écologique qui consiste à cheminer en fait sur un temps long, donc de vivre quelque chose pendant un an où on pose vraiment toutes les questions qu'on a à poser, où on débat, où on partage aussi un certain nombre de solutions et d'idées, Donc, c'est aussi ce que vous faites aujourd'hui. Mais en fait, dans la conversion écologique, se nourrir les uns des autres, débattre, tout ce qui est apporté comme ça par le collectif est essentiel. Si chacun est de son côté à essayer de faire des gestes individuels et chercher des solutions, chacun dans son coin, on voit qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, il y a l'apport du collectif en fait, dans le cheminement de chacun. Et puis, il y a la possibilité du débat qui est essentiel. Et voilà, donc il y a aussi la présentation aujourd'hui de ce que font les scouts. Moi, je suis aussi au conseil d'administration des scouts et guides de France. Et ce qui est beau avec des lieux comme les scouts, c'est aussi cet apport du débat collectif dans la démarche qui a été faite de conversion écologique chez les scouts. C'était assez passionnant de voir comment on pouvait débattre ensemble des actions qu'on met en place. Et si on ne fait pas ça aussi, je pense qu'on passe à côté du sens de l'action qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut faire des listes d'actions un peu toutes faites, comme on en a souvent de petits gestes à faire, mais si on ne les débat pas ensemble pour savoir laquelle est la plus juste et qu'on ne s'enrichit pas mutuellement, en fait, ça ne fonctionne pas. Si je prends un exemple, moi, je suis une génération où pendant longtemps, on nous a dit que recycler le verre, c'était la solution. Aujourd'hui, il y a un débat autour de la consigne où on commence à se dire, mais en fait, est-ce que c'est si écologique que ça ? Le recyclage du verre, consigner les bouteilles, les laver, les remettre en service, ça utilise moins d'énergie, il y a moins aussi d'argent à dépenser pour la collecte. Enfin, il y a plein de réflexions autour de ça. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas non plus de geste écologique magique et qu'on aura à chacun, à chaque génération, à les imaginer, à les penser. Donc, du coup, le fait de se retrouver ensemble avec un groupe, de faire un parcours sur un an avec plusieurs thèmes, ça permet en fait à chaque fois d'aller dans cet approfondissement du débat, de la recherche de solutions et de quels gestes moi je vais mettre en place dans ma vie qui a du sens. Et du coup, le fait de le vivre, pour moi, ça a été un parcours qui a changé ma vie en fait dans ma pratique du quotidien, dans plein de choses, dans mes engagements. Et du coup, la force de ce que j'ai vécu et de ce qu'ont vécu les autres personnes avec moi, j'ai eu envie de le partager et d'en témoigner. Et en fait, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Laudato si en acte, petit guide de conversion écologique, avec l'idée de proposer des pistes pour mettre en place des groupes. Et aussi, au-delà de la volonté de témoigner de ce que moi, j'avais pu vivre comme conversion écologique, avec le fait aujourd'hui de consommer autrement, le fait d'avoir vu comment quelques personnes, en se réunissant, en faisant un petit groupe, pouvaient lancer une AMAP. On a réaménagé la petite place qui est à côté du café en installant des bacs de plantation. Ça fait venir plein de personnes du quartier. Donc, à partir de là, il y a des personnes qui se sont mis en lien pour créer un compost qui a été installé là, il y a quelques semaines. Le compost aujourd'hui, les personnes de la MAP, c'est au même horaire, donc ils peuvent rejoindre le compost. Et ce qu'on aimerait faire, c'est que le compost puisse servir au producteur qui vient à la MAP du café pour pouvoir servir dans son exploitation. Donc en fait, là, on voit qu'on commence à recréer des choses à notre échelle qui ont du sens et qui sont fortes. Mais voilà, au-delà de moi, ce que j'avais vécu et qui me semblait utile pour témoigner, il y avait aussi tous les groupes que j'observais qui s'étaient lancés un peu partout en France et qui m'ont interpellée de la même manière, de dire qu'en fait aujourd'hui il y a des personnes qui ont envie de vivre cette aventure collective de la conversion écologique, de mettre en place des choses ensemble, de penser du coup une échelle, d'investir une échelle politique qui pour moi a beaucoup de sens, c'est-à-dire quand on pense action écologique, sinon on va penser uniquement l'échelle individuelle des gestes et ou alors l'action des pouvoirs publics, qui est évidemment nécessaire, et il faut faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils mettent en place un certain nombre de choses, mais il y a une échelle politique et cette échelle intermédiaire qui en fait est essentielle en écologie pour aussi accompagner les changements sociaux. Mais voilà, donc c'est le fait de moi avoir envie de témoigner et de voir ce qui se vivait ailleurs, qu'il y avait plein de groupes qui s'étaient créés, et du coup d'avoir envie de parler de ça. Donc le livre, il est à la fois une présentation de ce qu'on a vécu à Lyon, une réflexion sur la notion de conversion écologique qui aussi pour moi, dans ce qui est apporté par le pape François, a beaucoup de sens, et puis une présentation un peu d'autres groupes en France. Donc il y a une diversité, des groupes qui se sont créés dans des quartiers, dans des paroisses, des groupes qui se sont créés même dans le contexte du travail, notamment à RCF, et puis une partie un peu méthode, où c'est quelle piste pour lancer une petite démarche collective, pour lancer un groupe. Évidemment, il y a aussi la démarche Église verte qui peut être mobilisée. La démarche Église verte, elle permet d'ancrer en fait ces démarches collectives de conversion écologique dans une paroisse, elle permet de proposer un certain nombre d'outils en faisant un diagnostic collectif pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais si vous voulez, la différence entre cette démarche Église verte, qui est une démarche proposée pour les paroisses, qui est portée par des catholiques et des protestants, les groupes de conversion écologique, c'est une version peut-être un peu plus souple, au sens où ça peut se construire partout, à partir du moment qu'on a envie de vivre une démarche collective. Donc voilà, à partir du moment aussi, l'essence un peu des groupes de conversion écologique, c'est articuler formation, action et puis aussi prière. Voilà, et ça me permet de finir un peu sur, pour moi, le sens de la conversion écologique aussi qui est proposée par le pape, au sens où la différence, si on voudrait un peu expliquer ça, entre conversion écologique et transition écologique, c'est cette dimension de l'intériorité. Ce qu'amène le pape François dans cette question-là, c'est de dire pour chacun, on a à faire un changement intérieur, un changement de relation au monde pour ensuite arriver à se mettre vraiment en route sur l'écologie et à faire des actions. Donc en fait, de dire que la crise écologique aujourd'hui doit nous interpeller dans notre relation au monde et du coup dans notre relation à Dieu. Et c'est ce qui est assez fort dans la manière de parler de l'écologie chrétienne, c'est de dire, en fait, on est appelé à une conversion, fondamentalement. C'est-à-dire, s'il y a aujourd'hui cette crise écologique, c'est que quelque part, on n'est pas en communion avec Dieu, et que quelque part, ça vient nous chercher dans notre relation à Dieu et notre manière de la vivre dans la relation à l'autre, à la création, à soi. Donc, il y a vraiment ces quatre dimensions qui sont apportées dans l'encyclique et qui, moi, me parlent énormément. De dire, voilà, la conversion écologique, c'est travailler sur la relation à soi, la relation à Dieu, la relation à la création, la relation à l'autre. Et bon, ça va rejoindre à fond, en plus, le projet pédagogique des scouts et guides de France, donc ça me va très bien. Mais voilà, donc je voulais poser ça, et du coup, ça me permet d'avoir un dernier mot sur les démarches de bilan carbone, parce que du coup, à la fois, les démarches de bilan carbone sont intéressantes parce qu'elles permettent de quantifier, d'objectiver, et à un moment de se confronter à la réalité, et c'est important. Et à la fois, on voit qu'elles touchent leurs limites, parce que les démarches de bilan carbone ne posent pas cette question de la relation qu'on veut nouer au monde. Notamment, elles ne vont pas en prendre en compte les notions d'impact sur la biodiversité, un certain nombre d'autres choses. Donc à la fois, elles sont utiles pour quantifier, pour se mettre en route, mais je pense que si on n'essaye pas, à notre échelle, même personnelle, de nouer d'autres relations au monde, à la création, au vivant, voilà, encore une fois, et après avec cette dimension spirituelle aussi, on passe à côté de quelque chose de la démarche qu'on a à vivre. Voilà, donc invitation à créer des groupes de conversion écologique, à rejoindre si vous êtes dans une paroisse église verte, à essayer d'investir cette dimension collective et cette dimension de relation dans ce qu'on a à vivre sur l'écologie.
Merci beaucoup Marie-Hélène pour cet enthousiasme et puis qui a été souligné par les participants et pour nous inviter donc à nouer du lien pour pouvoir avoir le soutien pour faire cette conversion. Alors évidemment les démarches de bilan carbone comme tu le signalais ne sont pas suffisantes, on va quand même en reparler un petit peu parce que souvent c'est la première démarche de conscientisation que font les gens, notamment pour savoir par exemple si c'est surtout leur alimentation ou leur mode de transport ou leur logement sur lesquels ils peuvent agir en premier. Donc, le deuxième jeu de propositions qu'on vous propose aussi de regarder tout à l'heure et sur lequel on propose de vous engager à l'issue de cet atelier, ce sont des actions de lutte contre le changement climatique avec deux niveaux, des actions de militantisme collectif. Donc là, par exemple, vous avez la possibilité de rejoindre des réseaux de lutte contre le changement climatique comme Action Climat, dont font partie déjà un certain nombre d'associations comme le Secours catholique. Vous avez la possibilité de rejoindre un laboratoire d'idées comme The Shift Project, qui contribue par des études justement à donner les bons ordres de grandeur pour qu'on sache exactement, typiquement, par exemple, vous avez des questions sur le numérique. Voilà, vous trouverez sur le site de The Shift Project, donc Shift comme changement, hein, S-H-I-F-T, vous trouverez notamment un rapport sur la quantification de ce que coûte le numérique en termes de carbone, où vous pourrez trouver des chiffres pour savoir si effectivement vous devez arrêter de suivre les semaines sociales en vidéo ou si vous pouvez encore les suivre pendant quelques heures et le compenser en éteignant votre frigo pendant quelques semaines pendant les vacances de Noël. Je fais référence là à l'intervention d'Éric Salobir hier. Vous pouvez aussi soutenir sur une plateforme qui s'appelle make.org des initiatives citoyennes, un certain nombre d'initiatives notamment, donc recueil des signatures pour pouvoir proposer au niveau du Parlement européen des initiatives comme par exemple l'arrêt des pesticides de synthèse ou ce genre de changement de façon de faire de l'agriculture, même si on sait qu'il faut accompagner les agriculteurs pour y arriver parce que ce n'est pas forcément facile pour eux de se passer de quelque chose qu'ils ont utilisé pendant des années. Vous avez aussi une plateforme qui s'appelle convergence.org qui propose tout un tas de solutions pour changer la société à l'échelle collective. Donc, on vous laisse aller regarder, mais ce sont des actions collectives que vous pouvez mettre en œuvre en rejoignant ces différentes initiatives. Et puis, vous avez des actions pour mesurer votre empreinte carbone individuelle et apprendre, du coup, à en déduire les actions pertinentes pour diminuer cette empreinte carbone. Ces actions que vous retrouverez aussi dans l'étude de Carbone 4 sur Faire sa part. Alors, vous pouvez mesurer l'empreinte carbone de vos vêtements, une application qui s'appelle Clear Fashion. Vous pouvez mesurer l'empreinte carbone de vos trajets sur l'écolab de l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Vous pouvez mesurer l'empreinte écologique de vos achats. Vous avez une application qui s'appelle Greenly. Vous pouvez mesurer votre empreinte carbone complète. Et pour ça, par exemple, vous pouvez participer à une conférence qui s'appelle MyCO2, qui est animée par Carbone 4. Vous avez aussi l'écolab de l'ADEME qui vous permet de faire une évaluation de votre empreinte. Vous pouvez aussi le voir sous forme de nombre de planètes. Vous avez par exemple sur le WWF Suisse un calculateur d'empreinte écologique qui vous dit combien de planètes il faut pour supporter votre empreinte écologique. Donc tout le monde arrive au-dessus de 1, je vous rassure. Et puis ensuite, vous pouvez travailler à réduire votre empreinte écologique. Donc vous pouvez travailler sur votre sobriété numérique. C'est ce que vous propose un site comme greenit.fr. Vous pouvez vous approvisionner sur des marchés éphémères. Là, vous avez la liste des marchés éphémères, des marchés circuits courts à côté de chez vous. Vous avez des systèmes qui vous permettent de d'acheter du bio, mais moins cher en vous abonnant. Vous avez des systèmes qui vous permettent de repérer un restaurant végétarien. Ça s'appelle happycow.net. Vous pouvez acheter des vêtements de seconde main. C'est ce que vous trouverez, par exemple, sur un site comme vestiairecollectif.com. Vous pouvez cuisiner en tenant en compte l'impact environnemental et la saison. Et enfin, vous pouvez compenser l'impact de vos recherches Internet avec des moteurs de recherche comme Lilo, Ecosine, Ecosia. Donc, voilà un ensemble de mesures dont on vous proposera de débattre tout à l'heure qui vous permettent d'agir concrètement dans votre quotidien. Alors, je vais redonner la parole à Jacques-Olivier Garda pour qu'il nous explique un peu ce qu'on peut faire quand on est dans une action collective, par exemple avec un laboratoire d'idées comme le Shift ou avec le campus de la transition dont il fait partie. Et puis aussi, voilà, qu'est-ce qu'il recommande comme outil pour évaluer de façon fiable sa propre empreinte carbone, pour prendre conscience et avoir quelque chose de représentatif de son mode de vie. Jacques-Olivier, je te redonne la parole.
Merci Eric. Alors, je serai beaucoup plus court, hein, puisque là, j'ai 5 minutes. Alors, pour compléter un petit peu d'où je viens et d'où je vous parle, je vous ai dit Pont-Saint-Esprit, entrepreneur indépendant, mais je suis aussi marié et père de famille, j'ai 5 enfants. Et c'est ça qui me tient aux tripes, finalement, c'est face à l'ampleur des transformations que l'on a à faire. Le moteur qui me fait avancer, c'est finalement, quand je serai au crépuscule de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que je pourrais raconter à mes enfants, à mes petits-enfants. Est-ce que j'ai baissé les bras parce que la tâche était trop lourde, ou est-ce que j'ai essayé de faire à ma mesure ce qui était possible de faire? Donc, il me semble que les changements que l'on a à faire advenir vers un monde meilleur, en fait, c'est un défi qui a plusieurs dimensions, un défi de bon sens, un défi du cœur, mais aussi un défi de l'intelligence. Et c'est un peu sur ce point-là que je voudrais témoigner. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé depuis que j'ai plongé dans la compréhension de ces enjeux-là, c'est effectivement, comme l'a dit Eric, c'est de me rapprocher d'un laboratoire d'idées qui est spécialisé sur les enjeux de décarbonation, qui s'appelle The Shift Project, alors qui est plutôt une association d'entreprises, mais de fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, d'individus qui, intéressés par les travaux du Shift, ont souhaité se constituer en fait en association bénévole qui s'appelle les Shifters et qui regroupe aujourd'hui 4 ou 5 000 personnes bénévoles. Et l'idée, c'est vraiment de se saisir concrètement derrière tous ces chiffres. On parlait d'empreinte carbone, je vous ai parlé des 11 tonnes et ainsi de suite. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Quels sont les ordres de grandeur ? Et donc de s'y attacher avec, dans une démarche collective, transdisciplinaire, pour produire de la connaissance qui nous permettra ensuite de passer à l'action. Juste quelques exemples, Eric l'a cité, le Shift Project dès 2018 a publié un rapport sur les enjeux de sobriété numérique, ce qui a contribué avec d'autres, et notamment Green IT, à mettre vraiment le sujet au cœur, puisque on a l'impression que le numérique, c'est du dématérialisé, alors qu'aujourd'hui, son empreinte est la même que celle de l'aviation au niveau mondial. C'est aussi une démarche pour comprendre finalement quel est le niveau d'engagement de l'enseignement supérieur, avec tout un travail de fond sur finalement comment sont enseignés aujourd'hui les enjeux énergie-climat dans l'enseignement supérieur. Et donc, de se rapprocher de ce type de laboratoire, c'est un, contribuer à sa mesure en fonction de son niveau d'expérience et d'expertise à alimenter, mais c'est aussi une façon de se former et de le faire de façon collective. Et ils ont lancé à ce titre-là, et ça peut intéresser certains, une réflexion dans le cadre du plan de relance sur quel pourrait être un plan de transformation réel et sérieux de l'économie française, en s'appuyant non pas sur des objectifs de croissance de PIB, mais concrètement ce qu'on veut faire en termes de flux physique et d'énergie et en termes d'emploi et de capacité à intégrer le quotidien de tout un chacun. Qu'est-ce que concrètement ça voudrait dire? Et donc les travaux sont en plein et il est possible d'y participer en relisant ce qui a déjà été publié, en partageant ses remarques, ses interrogations, ses critiques, ses propositions. Et puis, dans une autre mesure, je dirais au niveau de l'enseignement supérieur, puisque j'ai, à travers cette démarche du Shift Project sur le rapport de l'enseignement supérieur, j'ai été aussi amené à rencontrer et à faire connaissance d'une initiative qui a été portée par Cécile Renoir, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est religieuse et professeure d'éthique, notamment au Centre Sèvres, et qui a créé le campus de la transition en Seine-et-Marne, avec la vocation d'ancrer dans un territoire un lieu de formation, d'expérimentation et de recherche en interaction avec le monde local. Et il y a notamment, par exemple, un projet autour de la mobilité, des questions de mobilité inclusive autour de la communauté d'agglomération de Montereau. Et puis, juste pour terminer, sur un outil pour l'empreinte carbone, Marie-Hélène l'évoquait, c'est une porte d'entrée pour faire un premier pas. Et il y a plein d'initiatives et je voudrais en signaler une qu'a évoquée Eric, c'est myco2.fr qui est animé et qui a été créé par Carbone 4 et qui ne se passe que sous forme de conférences collectives. C'est-à-dire l'idée, ce n'est pas de faire son bilan carbone dans son coin, mais c'est de le faire avec d'autres participants, avec une deuxième étape, d'identifier finalement des axes d'action, mais aussi de partager avec les participants des bonnes pratiques. Et ça me semble excessivement intéressant parce que ça donne des idées et on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul dans son coin, que que ça se fait de façon joyeuse et que c'est plutôt bénéfique à tout un tas de niveaux, au niveau financier, mais au niveau santé, au niveau mieux-être, et dans une relation qui se redessine avec les autres. Voilà un petit peu ce que je voulais et pouvais vous partager en quelques minutes. Merci.
Merci beaucoup, Jacques-Olivier. Merci effectivement de nous rappeler que l'écologie se construit dans une relation et que tout est lié, c'est-à-dire que effectivement, on ne s'engage bien dans ce genre de démarche que si on s'engage avec les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a convié ce matin, pour favoriser aussi la possibilité de partager sur ces sujets. Alors, je vais vous proposer une dernière proposition, un dernier jeu de propositions qui sera ensuite commenté, et puis vous pourrez justement en débattre dans les petits groupes que vous avez commencé à former tout à l'heure. Le troisième jeu de proposition est plutôt, si je le retrouve, sur l'aspect... Hop, voilà. Sur l'aspect comment influer sur le bilan de son organisation ou des organisations sur lesquelles on a une influence. Pour ça, il y a plusieurs solutions, mais soit vous êtes le chef d'entreprise et vous pouvez décider de ce que vous faites dans l'entreprise, soit vous ne l'êtes pas et vous êtes un client, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas nécessairement en décider, mais vous allez pouvoir faire des choses par la manière dont vous choisissez ce que vous consommez. Beaucoup d'entre vous sont impliqués dans des associations. Dans les actions qu'on vous propose, il y a des actions pour convertir donc son association ou son entreprise, et notamment l'utilisation du kit de conversion écologique qu'ont mis en place les scouts et guides de France pour engager une démarche de baisse de l'empreinte carbone de leur association, et donc que va vous décrire Gaëtan Monod. Et puis, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez aussi faire le bilan carbone de votre entreprise et en déduire un certain nombre d'actions. Vous avez l'ADEME qui fait beaucoup d'actions en ce moment pour aider les chefs d'entreprise à s'engager dans cette démarche. Dans un deuxième temps, nous verrons aussi avec Paul Picaretta comment le modèle économique, par exemple, de votre, que vous adoptez pour la presse que vous achetez ou pour les services numériques que vous payez a un impact sur justement la durabilité de ces systèmes-là. Oui. Donc, je vais céder la parole à Gaëtan Monod pour qu'il nous explique ce qui a été fait au Scouts et Guides de France.
Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, c'est Gaëtan Monod, je suis délégué national éducation et pédagogie chez les Scouts et Guides de France. Donc, je m'occupe de toute la partie de la définition du programme éducatif chez les Scouts et Guides de France. Et l'année dernière, on a lancé une grande démarche sur la conversion écologique dans le mouvement. Marie-Hélène en a dit un mot tout à l'heure. Je vais approfondir un peu ça. Alors, je vais vous partager mon écran avec... Hop. Voilà. Donc, c'est une démarche qui vient de plusieurs... plusieurs choses. Le premier, c'est que c'est pas un sujet qui est nouveau dans notre association. Il y en a qui connaissent les Scouts et Guides de France. J'ai reconnu quelques visages tout à l'heure. On est une association d'éducation populaire et donc qui vit dans la nature, qui a un vrai axe dans la vie dans la nature. Et c'est un sujet qui nous touche particulièrement, ou en tout cas sur lequel on a une attention depuis plusieurs années. Et puis, avec les mobilisations climat, notamment de Youth for Climate, l'année dernière, il y a déjà 2 ans maintenant, on a eu une vraie remontée des jeunes qui nous ont dit, en fait, il faut que le mouvement prenne sa part et que le mouvement aussi transforme son action sur des thématiques de conversion écologique, sur des thématiques de réduction de notre impact carbone. On a beaucoup aussi lu Laudato Si dans l'association, qui a été aussi un vrai moteur de déclenchement pour s'engager vers la transition écologique. Et puis, avec une forte dimension humaine et qui ne se concentre pas que vers la mesure de l'impact carbone, mais qui se concentre aussi sur le vivre ensemble, etc. Et donc, je vais le détailler ensuite. Alors, on a lancé par notre Assemblée Générale 2019 toute une toute une démarche sur la conversion écologique. Donc, on a voté un texte qui nous dit on se donne un an pour répondre concrètement avec des engagements chiffrés sur la conversion écologique. On a mis en place du coup toute une étape qui allait l'année dernière de septembre en gros à aujourd'hui jusqu'à la mise en œuvre de nos engagements. Cette démarche, elle avait pour but à la fois de définir ce sur quoi on voulait s'engager, mais aussi de faire en sorte d'embarquer tout le monde. Et on avait notamment repéré lors des premiers débats qu'on avait fait pour voter le premier texte une vraie question d'intergénérationnel avec des jeunes qui voulaient aller très loin, très vite, et puis des plus âgés qui, et notamment des cadres du mouvement, qui étaient beaucoup plus tempérés et beaucoup plus à dire c'est pas forcément notre objectif, on est un mouvement d'éducation, etc. Et donc qui étaient moins engagés dans cette transition-là. Donc on avait vraiment un objectif de faire en sorte que tout le monde s'embarque dans ce projet-là et dans ce mouvement de conversion écologique. Alors, on a eu 4 étapes. La première, elle était de se dire, en fait, c'est quoi notre conversion écologique chez les Scouts Guides de France? Il y a l'Audat aussi qui nous dit des choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment on traduit ça pour le mouvement? Donc, on a lancé un questionnaire à destination de tous les adhérents du mouvement, jeunes et adultes, pour se dire, en fait, c'est quoi la conversion écologique? Il en est ressorti plusieurs choses et 4 convictions, notamment que la conversion écologique, c'est quelque chose qui nous sert à vivre ensemble et c'est quelque chose dans lequel le vivre ensemble ne peut pas être exclu. Et donc, on s'est beaucoup appuyé là-dessus pour justement faire un collectif et donner quelque chose qui ne s'appuie pas que sur une ambition chiffrée, mais aussi sur une ambition éducative et une ambition collective. Il y avait aussi du coup la question de la nature, évidemment, la question du respect, et j'en oublie un, il va me revenir. En tout cas, ensuite on a lancé une deuxième étape de se dire, avec cette définition de la conversion écologique, qu'est-ce qu'on veut re-questionner comme fonctionnement, comme pratique, que ce soit nos pratiques de fonctionnement d'association ou des pratiques éducatives. Et on s'est aussi posé la question de qu'est-ce qu'on ne voulait pas bouger, qu'est-ce qu'on ne voulait pas changer et qu'est-ce qui était important pour nous pour garder notre projet éducatif et pour à la fois s'engager dans la conversion écologique. Il en est ressorti, par exemple, ça peut vous paraître tout bête, mais qu'on ne voulait pas abandonner le feu de camp et que c'était quelque chose qui était au cœur de notre vie scout et que malgré l'impact écologique que ça a, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'abandonner. Et parce que c'est une vraie plus-value éducative, c'est une vraie plus-value dans notre vie scout. On a aussi défini là-dessus qu'on ne voulait pas abandonner les rassemblements. On fait régulièrement des gros rassemblements. Donc voilà, c'était ce genre de choses. Et puis, cette deuxième étape s'est faite en conseil, alors en gros en petits groupes, par échelon de l'association, pour que la parole soit la plus collective possible et construire déjà ici une parole collective sur la question. Parallèlement à ça, on a mené avec une structure externe notre impact carbone et notre bilan carbone, pardon, qui a ressorti pour le coup deux choses. C'est que l'alimentation et le transport, c'est nos deux gros axes de dépenses carbone et c'est les deux gros axes sur lesquels il fallait qu'on travaille avec aussi des coûts de structure, etc. Mais c'était les deux axes principaux. Et du coup, en mélangeant un peu tout ça, c'est-à-dire à la fois ce que c'est la conversion écologique, ce sur quoi on a envie de bouger et pas bouger, et ce bilan carbone, on est arrivé dans notre processus démocratique, en gros à l'échelon départemental, on crée des assemblées qui débattent des engagements qu'on voulait prendre. Donc là, sur toutes les thématiques du bilan carbone, sur le prisme de ce qu'on veut bouger ou pas, on s'est dit à combien de réductions de notre bilan carbone on vise pour 2025 et donc quelles sont les actions qu'on va mettre en œuvre pour faire ça. Et donc on a remonté tout ça, on a fait une synthèse de toutes les 70 assemblées territoriales pour écrire la résolution et qui du coup détaille les engagements qu'on prend. Donc cette résolution, elle a 3 parties. Elle a une première partie qui est notre fibre principale, qui est de dire comment on éduque et on forme à la conversion écologique. Une deuxième partie qui est vraiment agir avec des engagements chiffrés, de se dire on veut par exemple diminuer de 20% notre impact carbone au global, un peu plus de 20%, et donc ça veut dire que pour l'alimentaire, il faut aller à 25%, et donc il faut faire au minimum un repas sur deux végétarien. Voilà, ça c'est un exemple d'engagement qu'on a sur lequel on est arrivé. Et puis on s'est dit aussi comment on va faire en sorte de pas mener cette résolution que chez nous, que chez les Scouts et Guides de France, mais comment ça nous sert à rayonner ailleurs, comment ça nous sert à transformer notre vie personnelle, à transformer d'autres groupes, d'autres lieux dans lesquels les jeunes et les adultes peuvent être. Donc c'est une résolution ensuite qu'on a votée à l'Assemblée Générale 2020, donc en mai dernier, qui a été très largement votée dans l'association. Et puis avec pour idée, donc je vais vous remettre dans le chat le kit qu'on a sorti juste après notre Assemblée Générale et qui sert aujourd'hui à dire que dans chaque échelon, les adhérents s'engagent à mettre en œuvre cette résolution et donc à inclure dans leur vie associative, dans leur plan d'action, dans leur projet, cette résolution et ses engagements. Voilà, je vous remets dans le chat le lien vers, alors ça s'appelle Doc en Stock chez nous, le lien vers le kit de conversion écologique, et vous retrouverez toutes les catégories avec à chaque fois, Marie-Hélène me dit que je ne l'ai pas mis à tout le monde, voilà, c'est ici, avec à chaque fois du coup toutes les thématiques du bilan carbone qu'on a traitées, et puis vous pourrez retrouver sur notre site internet toute la démarche si ça vous intéresse. En tout cas, c'est des choses, si vous avez besoin, on est aussi à disposition pour vous aider, vous réexpliquer la démarche qu'on a menée, si ça vous intéresse de la mener dans vos propres organisations, entreprises ou associations. Merci Eric. Du coup, je te repasse
Merci
la parole.
Merci beaucoup, Gaëtan. Merci. Vous êtes invité effectivement à consulter les fiches que les Scouts et Guides de France, ont mis en ligne pour introduire à la démarche et puis à les contacter pour qu'ils viennent vous expliquer ce qu'ils ont fait ou si vous avez envie de mettre en place cette démarche dans votre association, discuter de cette mise en œuvre. Je crois que c'est important que chacun, là où on est, avec ceux avec lesquels on est, on puisse faire cette démarche. Et c'est quelque chose de très fécond. J'ai l'impression que les Scouts et Guides de France ont eu, comme on disait tout à l'heure, un débat intéressant et qui les a aussi fait grandir dans leur vocation à être des éducateurs des jeunes qui leur sont confiés. Je vais redonner la parole à Paul qui avait commencé à nous expliquer aussi comment, par la manière dont individuellement on agit sur ce qu'on achète et la manière dont on s'informe, la manière dont on gère sa vie numérique, on peut avoir aussi un impact pour être plus durable, notamment vis-à-vis de l'attrait de la publicité et puis aussi vis-à-vis de ce qui finance le système numérique derrière.
Oui, alors effectivement, la question, je ne sais pas si c'est tant la question des médias, c'est-à-dire que on donne beaucoup de références depuis tout à l'heure, et c'est vrai que je vois remonter des questions qui disent oui, mais est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable, c'est une vraie interrogation. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il existe en France des médias qu'on dit libres et indépendants. Ça veut dire qu'ils ne sont pas financés par des groupes à vocation capitalistique qui financent derrière peut-être une entreprise avec des intérêts privés. Bon, on connaît un peu tous ces grands médias. C'est bien aussi d'avoir un panel pour savoir quand je vais chercher une information dans un média. Évidemment, les journalistes, ça il faut quand même le rappeler, les journalistes qui interviennent sont pas personne, il n'y a pas un PDG derrière qui écrit les articles à leur place. Simplement, il y a ce qu'on appelle une forme d'autocensure qui est inhérente en fait au modèle de la presse classique. Je voudrais juste me permettre de vous partager une petite photo, une carte, qui est réalisée par un journal qui s'appelle Le Monde Diplomatique, qui est en fait la carte des médias français, qui s'appelle qui possède quoi. Alors c'est très bien fait. Je vais vous copier le lien tout de suite et sans doute qu'on vous le remettra un peu plus tard. Oula, alors c'est un lien qui est un peu long. Normalement, si vous cliquez là-dessus, vous avez accès à la carte des médias français qui possède quoi. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir, quand je lis les Échos, le Figaro, le Parisien, les quotidiens régionaux, je lis la presse de quel type de propriétaire. C'est important puisque on voit que certaines sociétés sont directement liées à des activités polluantes. Donc, est-ce que l'information que je vais lire dans tel ou tel journal, est-ce qu'elle va être objective ou est-ce que j'ai même toutes les informations? Donc ça, c'est une première chose. C'est bien fait, mais est-ce que c'est fiable, demande Kevin. Effectivement, les journalistes du monde diplomatique font un travail oui, d'enquête, il y a beaucoup d'universitaires, etc. Je pense que le monde diplomatique, c'est fiable. Parce qu'à un moment, il faut bien revenir à une source, à une première source fiable. Donc ça, c'est la première chose. Depuis les années 2000, il s'est développé en France et un peu partout des médias indépendants que l'on trouve soit en papier, soit sur Internet. Et la question donc, qu'on peut se poser, c'est les médias qu'on trouve sur Internet, qui sont indépendants, effectivement, est-ce que leur modèle économique est sain, fiable, etc. Parce qu'effectivement, sans publicité sur Internet, il est impossible aujourd'hui, sans monétiser une information, il est impossible de faire tourner une rédaction. Donc, quand on va cliquer, par exemple, sur le site, je ne sais pas moi, 20minutes.fr, on a de l'information gratuite, mais parce qu'il y a de la publicité. Comme dit le slogan bien connu, vous savez, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. C'est-à-dire que les données que le site va récupérer sont ensuite monnayées pour des intérêts privés. Donc, effectivement, c'est important de savoir, je ne vais pas vous dire de bien s'informer, mais de savoir, quand on s'informe, quelle est la nature de l'information, comment elle est produite, par qui, etc. Donc après, chacun choisit en fonction de ses préférences, ses orientations, etc. Mais c'est bien d'avoir déjà ce petit recul sur comment est produite l'information. Et enfin, sur Internet, il faut vraiment que nous prenions conscience qu'une information libre et indépendante, elle a forcément un coût, parce que ça demande du travail et donc il faut le payer. Si je ne le paye pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui va. C'est un peu serpent qui se mord la queue, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye pour moi et je suis moi-même un produit en train d'être échangé. Alors, pour évaluer si c'est fiable, il faut que celui qui mène n'ait pas d'intérêt. Oui. Voilà, et la dernière chose que je voulais vous dire, oui, c'est ça, c'est tout simplement le soutien à ce type de presse. Vous savez, quand on va voir un petit producteur, par exemple, une AMAP, etc., plutôt qu'aller choisir la grande distribution, c'est forcément engageant. Donc, de toute façon, ce qui est bon est forcément engageant. Ça coûte quelque chose, ça demande un effort, c'est pas accessible à tout le monde, etc. Donc, effectivement, il faut être conscient que c'est aujourd'hui l'information, c'est quasiment l'information de qualité, c'est devenu un luxe. Et voilà, on pourra peut-être ouvrir un grand débat sur une information de qualité libre, le service public de temps en temps le produit. Et puis voilà, il y a vraiment ce travail de critique à faire. Voilà.
Merci Paul pour cet aspect-là. Donc, dans les propositions, dans le jeu de proposition 3, voilà, du côté des propositions personnelles, pour effectivement favoriser des modèles économiques qui soient durables et qui permettent de soutenir la transition écologique sans être pieds et poings liés avec des financeurs qui auraient peut-être des intérêts différents, les propositions qu'on peut vous proposer à titre individuel, c'est de regarder qu'est-ce que vous payez comme abonnement à vos médias. Que ce soit sur papier ou en ligne, comment est-ce que vous financez les médias que vous consultez pour les rendre moins dépendants à la publicité et plus indépendants. Et puis, regardez aussi comment vous financez vos services numériques. Souvent, on accède à une messagerie, à un stockage dans le nuage à coût nul. Mais ce n'est pas nul, forcément, il y a un traitement d'information derrière. Donc, il y a un certain nombre de services numériques qui vous proposent de payer un prix relativement modeste, mais qui vous garantissent du coup que derrière, votre information, elle n'est pas traitée par des gens qui auraient peut-être des intérêts différents des vôtres et pas forcément un intérêt aussi important que vous à une planète durable. Donc, on est conscient que toutes ces propositions, ça fait beaucoup. Alors, on va vous remettre un lien vers un Framapad deuxième partie qui vous donne l'ensemble de ces propositions dans un document partagé qui va vous servir à pouvoir débattre donc en petits groupes. Donc, vous avez vu, le matériel est riche, dense. J'imagine qu'effectivement, vous avez peut-être eu l'impression d'être un peu submergé par les propositions. C'est un peu l'esprit du manifeste, non pas de submerger les gens, mais d'offrir un panel de propositions relativement important pour que chacun puisse se saisir de quelque chose qu'il touche particulièrement. Et donc, pour conclure cet atelier, ce qu'on va vous demander, et Alexandre va le mettre dans le chat tout de suite, c'est d'aller remplir juste après cet atelier, le plus vite possible après, un formulaire, un questionnaire où vous allez pouvoir donner une note aux propositions politiques et puis par rapport aux propositions individuelles et collectives, nous dire si